Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation, de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés parce que ça allie deux de mes passions, c'est-à-dire le voyage et l'organisation. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te présenter en 12 étapes comment bien planifier un voyage, qu'il s'agisse d'un voyage court, hein, de quelques jours à quelques semaines, ou d'un voyage long. Donc, qui peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois, voire à une période indéterminée. Voilà, c'est les étapes, c'est en gros les mêmes pour tout type de voyage. Mais bien sûr, si c'est un voyage plus long, il y aura certaines choses qui... il y aura quelques ajustements à faire selon la durée du voyage. Mais en général, c'est à peu près ces 12 étapes-là qu'il faut, par lesquelles il faut passer pour planifier n'importe quel voyage, selon mon avis. Hein, bien sûr, chacun a sa façon de faire. Mais aujourd'hui, je te présente ma façon de faire, les étapes que moi je suis quand je planifie tous mes voyages. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première étape que moi je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à faire, qui est pas toujours, si tu lis les articles et tout, on n'en parle pas souvent, mais moi je pense que c'est vraiment une étape hyper importante et tu verras par la suite pourquoi. Mais c'est de déterminer la raison de son voyage. Moi, je pense que c'est vraiment important de savoir un peu pourquoi tu veux partir en voyage pour que l'expérience en fait que tu vas ensuite avoir en voyage et les décisions que tu vas faire pour ton voyage soient alignées, soient... t'apporte ce que toi tu veux que ce voyage t'apporte. Que ce soit, comment dire en anglais, meaningful, donc que ça ait du sens et que ben voilà, le voyage il soit pour toi et pas pour les autres. C'est vraiment simple, hein, c'est pas si compliqué que ça, déterminer quelle est la raison de notre voyage. C'est vraiment, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je veux moi pour ce voyage? Qu'est-ce que je veux en retirer? Et il n'y a absolument pas de mauvaise réponse à cette question. C'est vraiment une discussion que tu dois avoir avec toi-même, très honnête, de ce que tu veux. Et vraiment, le plus important là, de tout, c'est d'oublier les injonctions de la société, des réseaux sociaux, de ce que tout le monde dit qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu expérimentes. Oui, bien sûr, Sarah. Que tu expérimentes dans tel pays ou je sais pas quoi parce que c'est un must ou blablabla. Mais vraiment, concentre-toi sur ce que toi, tu veux vraiment vivre de ce voyage, que tu veux retirer. Et personne d'autre. Et le voyage, tu le fais pour toi. Vraiment. Ça, c'est, pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la pression qu'il y a c'est un peu genre à la mode de voyager et tout, et il y a toujours des listes de les must, de choses à faire, de choses à voir et tout, mais si c'est pas des choses qui t'intéressent, ben on s'en fiche, c'est pas tes must à toi. Chacun peut avoir ses propres must et ses propres envies de faire des expériences différentes et tout. Donc voilà, je t'encourage vraiment à décider ce que tu veux toi retirer pour ce voyage. Et si tu as besoin d'un petit peu d'inspiration, de type de raisons pour lesquelles tu pourrais voyager, eh bien je te donne une liste absolument non exhaustive là, mais... voilà, juste pour te donner quelques idées, ça peut être un voyage pour te retrouver, te reconnecter à toi-même, réaliser un rêve, hein. Par exemple, s'il y a une destination que tu aimerais visiter depuis hyper longtemps, ben voilà, ça peut être tout simplement cette raison-là. Apprendre une nouvelle langue, par exemple, ou pratiquer une langue, découvrir une nouvelle culture, se donner un défi, sortir de sa zone de confort, par exemple, moi c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir au Sénégal dans quelques jours d'ailleurs, pour un peu sortir de ma zone de confort et découvrir vraiment un pays complètement différent de ce que j'ai vécu à date, vraiment faire une grosse sortie de confort. Donc ça peut être une excellente raison, mais c'est pas nécessaire. On peut aussi voyager quelque part où on est dans notre zone de confort et on connaît genre cet endroit par cœur, mais on aime juste y retourner. Vraiment, il n'y a aucune mauvaise réponse, comme je vous disais tantôt. Ça peut être aussi simplement pour changer d'air, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Hein. Des fois, on a juste besoin de sortir de notre train-train quotidien. Apprendre une nouvelle compétence, par exemple, si en faisant du volontariat ou des choses comme ça, ça peut être ou un échange quelconque, ça peut être une bonne façon de profiter d'un voyage. Célébrer un événement, un accomplissement. Bien sûr, on pense par exemple à un mariage, qu'on appelle ça un voyage de noces, ou juste comme un genre de récompense pour avoir accompli un super gros objectif ou quelque chose comme ça, pour rencontrer des nouvelles personnes, parce que le voyage, c'est vraiment propice à ça, moi, en tout cas, je trouve. Et simplement, hein, ça peut être pour se relaxer, se ressourcer, parce que, ben, des fois, oui, on a aussi besoin de juste aller chiller sur le bord de la plage et ne rien faire, et ça fait du bien aussi, hein? Donc, voilà, vraiment, mais moi, je t'encourage vivement à réfléchir à pourquoi tu veux voyager, et comme ça, toutes les autres décisions découleront de cette intention que tu as pour ton voyage. Alors, une fois que tu as déterminé ton intention, on passe maintenant à la deuxième étape qui est de déterminer ton budget. Donc, moi, je pense que c'est quand même important de savoir plus ou moins combien d'argent tu peux dédier à ton voyage. Et là encore, après l'intention, ça va aussi beaucoup déterminer toutes les prochaines étapes. Donc, voilà, de déterminer combien d'argent tu as disponible pour faire ton voyage. Et moi, je suis une grande, grande fan du fait d'ajuster ton voyage à ton budget et non le contraire. Parce que comme ça, ça te permet de partir beaucoup plus souvent sans devoir toujours attendre d'avoir plusieurs milliers d'euros d'économie. Vraiment, le fait d'avoir un budget et de faire avec ce que tu as déjà, c'est vraiment ce qui te permet, en tout cas moi, ce qui me permet de voyager beaucoup plus souvent par rapport à attendre d'avoir 3, 4 000, 5 000, 6 000 euros de côté pour pouvoir partir. Et même si j'ai juste 800 euros de budget, par exemple, eh bien, j'adapte mon voyage à mon budget. Donc, j'ai 800 euros, ok, je pars. Et donc ça, ça me permet de partir vraiment... genre plusieurs fois par année même, parce que j'adapte vraiment ma façon de voyager à mon budget. Alors, je comprends que ça peut ne pas être la philosophie de tout le monde, mais voilà, moi, c'est vraiment mon conseil pour réussir à... Si ce que tu aimerais, c'est voyager plus souvent, adapte tes voyages à ton budget et non le contraire. Donc, en commençant par déterminer ton budget, bien sûr, ça va te permettre après de déterminer bien où tu peux aller, combien de temps tu peux partir, etc., et le type d'activité que tu peux faire, et voilà, tout ce que tu peux te permettre en fait. D'ailleurs, je t'ai aussi préparé un guide ultime pour voyager plus pour moins, dans lequel je te partage plus de 50 astuces pour économiser en voyage. Donc déjà, ça va te permettre d'optimiser ton budget, hein, de faire plus avec moins d'argent. Et aussi, tu vas trouver un template de budget de voyage que tu pourras utiliser pour justement calculer combien tu vas devoir mettre, ou combien tu as besoin pour ton voyage en termes de transport, d'hébergement, les activités à faire, les dépenses pré-voyage aussi à prévoir, etc. Donc vraiment avoir une idée de, déjà, est-ce que tu peux te permettre le voyage que tu veux et plus ou moins combien ça va te coûter. Et ensuite, durant le voyage, de garder une trace de tes dépenses pour t'assurer que tu restes bien dans ton budget ou pas, hein, parce que des fois, on aime ça aussi en voyage, se dire « Well, you know what? On se fiche du budget et on se fait plaisir. » Donc, voilà. Mais si tu as envie, tu peux trouver ce guide dans la description en lien, qui sera dans le lien... Mon Dieu, le lien dans la description de l'épisode, on va y arriver, ça, qui est juste, l'épisode de podcast. Donc, pour un budget, pour déterminer ton budget, moi, je trouve que c'est toujours plus simple, en fait, de déterminer un budget pour un voyage court, parce que, c'est moins de jours, c'est un peu plus facile de déjà faire un peu des recherches, voir c'est quoi le prix. On sait généralement les destinations précises ou plus ou moins, donc c'est plus facile de faire la recherche sur le prix des hébergements, voir les activités qu'on veut faire. Généralement, quand on a moins de jours, on a déjà quand même bien en tête les activités qu'on veut faire, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple de déterminer combien on va avoir besoin pour notre voyage et donc de voir si on respecte ou non notre budget. Quand on part pour un voyage long de plusieurs semaines, voire mois, ça devient déjà un peu plus compliqué. Donc moi, ce que j'essaie déjà de faire, c'est déterminer un budget général, mais vraiment très, très, très général. je pars 6 mois, j'ai 6 000 euros de côté, donc j'ai 1 000 euros de budget par mois, par exemple. Et donc, voilà, là, dans ce cas-ci, j'essaie de faire des recherches pour voir le coût de vie, le coût de la vie générale, selon les destinations que je veux visiter, pour voir un peu combien ça coûte plus ou moins pour l'hébergement, pour la nourriture, les activités que je veux faire, etc. Et donc, voir si mon budget est réaliste ou pas. D'ailleurs, il y a dans le guide pour économiser là, avec les trucs, les astuces pour économiser en voyage, je t'ai mis aussi des ressources là où tu peux aller voir le coût de la vie et tout, selon les différentes destinations, donc pour t'aider un peu à faire ces calculs là. Mais voilà, c'est beaucoup plus générique, je trouve, un budget quand on part pour plusieurs mois par rapport à un voyage court. Ensuite, la troisième étape, évidemment, ça je pense que c'est assez évident, c'est de déterminer les dates et là où les destinations pour ton voyage. Donc, si tu travailles, ça veut généralement dire demander des dates de vacances un peu à l'avance, s'organiser avec les collègues et tout. Donc, faut faire ça. Moi, je te conseille, si c'est possible, c'est pas toujours possible, et je le sais parce que moi aussi, quand je travaille, quand j'ai eu des jobs et tout, c'est pas toujours facile d'être flexible sur les dates de voyage et tout, et on veut profiter le plus possible des jours de vacances qu'on a. Mais si t'as un petit budget ou tu veux simplement pas dépenser tout ton argent en transport, l'une des meilleures façons d'économiser vraiment dans le budget voyage, c'est d'être flexible sur les dates et sur la destination de ton voyage. Donc, si t'es pas flexible sur les dates parce que ton employeur ne te permet de prendre des vacances que dans certaines périodes, etc., et que tu veux économiser, eh bien, dans ce cas-ci, je te conseille d'être flexible sur la destination de ton voyage parce que, dans les dates où tu peux partir, eh bien, il y a peut-être des destinations qui sont hyper pas chères pour plein de raisons. Et donc, si tu peux être flexible sur ta destination, ça va être une excellente façon d'économiser sur le transport. Mais si tu travailles, que tu n'as pas beaucoup de flexibilité et sur tes dates et que tu veux absolument aller visiter une destination en particulier et que tu as le budget, eh bien, go for it, hein? Détermine ta destination et vas-y. Une fois que tu as déterminé les dates et là où les destinations, c'est hyper, hyper important de vérifier les conditions d'entrée dans là où les destinations que tu comptes visiter, les recommandations et ou avertissements pour les zones visitées, les vaccins requis, aussi vérifier si c'est la bonne période pour y aller ou non. Donc c'est vraiment tout un peu s'assurer que on fait un bon choix. Et donc des fois il peut avoir un petit peu de retour en avant et en arrière entre l'étape 3 et l'étape 4 parce que des fois on peut se dire j'ai envie d'aller par exemple en Indonésie et en plein mois de août. Et c'est la période des moissons là-bas et donc c'est pas la meilleure période pour aller en Indonésie par exemple. On peut décider de revoir son planning et donc revenir un peu à l'étape 3 et ensuite à l'étape 4. Donc voilà, mais c'est vraiment hyper important parce que moi je suis sur plein de groupes de voyages sur Facebook et je suis assez hallucinée par le nombre de posts de personnes désespérées parce que à 2 jours du départ, elles se rendent compte que leur passeport n'est pas valide pour plus de 6 mois par exemple par rapport à leur date de départ ou d'arrivée et que c'est une des conditions sine qua non pour partir dans leur pays, dans le pays où elles comptaient partir. Donc vraiment, c'est hyper, hyper important. Vérifie bien toutes les conditions d'entrée. Est-ce que tu as besoin d'un visa? Ton passeport, comme je disais, la plupart des pays requièrent que le passeport soit valide soit 6 mois à partir de la date d'entrée sur le territoire ou à partir de la date de départ du territoire. Bon, bref. En gros, assure-toi d'avoir un passeport valide pour au moins 1 an. Juste pour être certaine que tout va bien, que tu pourras rentrer sur le territoire. Mais est-ce que tu as besoin aussi d'un visa? Quelles sont les conditions pour obtenir les visas? Parce que des fois, c'est possible de faire le visa à l'aéroport. Des fois, il faut le faire avant le départ au travers de l'ambassade, quels sont les documents nécessaires pour faire les visas etc. Combien de temps c'est nécessaire pour obtenir le visa, combien de temps le visa est valide. Bref, voilà, vraiment bien s'informer parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir partir à cause d'une telle erreur. Et dans ces cas-ci, les assurances, elles ne remboursent pas. Hein. Si c'est de ta faute de pas, que tu n'avais pas les documents, ton assurance, elle ne va pas te rembourser les vols annulés et tout. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Ensuite, vérifier les avis de sécurité, genre s'il y a un conflit armé, s'il y a une situation médicale dangereuse, genre des fois il y a des épidémies ou des trucs comme ça, si la situation politique est instable, s'il y a des risques de catastrophes naturelles, par exemple genre la saison des ouragans à Cuba, c'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller ou des trucs comme ça. Donc juste vraiment s'assurer aussi que c'est sécuritaire d'aller dans un pays. Après, moi ici, gros astérisque, fais très attention à ne pas te laisser décourager par les avis que les sites gouvernementaux mettent sur les pays. Parce que si tu lis, même la France, le Canada et tout, il y a des avertissements de sécurité, que tu lis et tu dis « Ouais, bon, hein, c'est quand même pas si... » Bien sûr, il peut arriver de tout partout, mais c'est pas des pays dangereux, quoi. Mais en lisant les avis, ça peut te faire flipper un peu. Mais voilà, donc faut vraiment toujours faire... attention, moi je dirais ce qui est vraiment à éviter le plus, c'est les conflits armés, genre là en ce moment aller en Ukraine ou aller en Syrie, c'est peut-être pas le meilleur moment, hein. Les épidémies, les trucs comme ça, ou genre s'il y a vraiment des grosses manifestations, des trucs comme ça, bon, on évite peut-être dans ces moments-là, mais sinon, à part ça, vraiment la plupart des destinations sont géniales et faut juste faire gaffe comme partout quoi, et ne pas se faire prendre par la peur des avis des gouvernements ou même des gens qui ne sont jamais allés dans ces pays. Ensuite, hyper important aussi, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires? Parce que là encore, on peut te refuser l'entrée dans un pays s'il y a un vaccin obligatoire. Par exemple, il y a la fièvre jaune qui est un vaccin qui est obligatoire dans plusieurs pays et qui est obligatoire si tu as été dans un pays où le vaccin était obligatoire dans les derniers X mois, là je me rappelle plus trop, mais fais bien gaffe aussi au vaccin obligatoire ou pas. Fais, comme je te disais, vérifie si c'est la saison des pluies par exemple, la saison des ouragans ou des catastrophes naturelles comme ça, genre qui sont récurrentes chaque année. Est-ce qu'il y a des festivals ou des fêtes importantes dans les dates où tu veux y aller? Parce que sauf si tu sais déjà et que c'est pour ça que tu y vas, mais si tu ne sais pas, peut-être que les prix augmentent énormément à ces dates-là, qu'il y a plein de choses qui ferment, que tu pourras pas faire les activités que tu veux faire, des choses comme ça, donc fais bien gaffe à ça aussi quand tu choisis tes dates. Ensuite, étape 5. Comme je te disais, c'est un peu en lien avec l'étape 4. Hein. Donc, tu vérifies les conditions d'entrée et là, l'étape 5, c'est vérifier la validité de tous tes documents de voyage, des vaccins, des visas, etc. Donc, comme je te disais, le passeport, est-ce qu'il est valide un temps suffisant? Est-ce que tu as les vaccins à date, les vaccins de base et, comme je te disais, les vaccins qui peuvent être obligatoires ou fortement recommandés dans certaines zones? Là, je te conseille vraiment de vérifier avec ton médecin de famille, surtout pour les vaccins de base, et ensuite de prendre rendez-vous dans une clinique spécialisée en voyages internationaux pour qu'ils te conseillent bien sur les vaccins à faire pour les destinations où tu veux aller. En général, ça c'est pour les destinations l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique quoi. En Europe, en général, il n'y a pas vraiment besoin de vaccins à part ceux de base normaux quoi, que généralement tu devrais avoir déjà reçu. Et si tu as déjà par exemple un visa pour un pays, vérifie qu'il est encore qu'ils sont encore valides ou pas, parce que des fois c'est valide 5 ans et on se rend pas compte et les 5 ans sont déjà passés ou des trucs comme ça, donc bien vérifier cela. Ensuite, l'étape numéro 6, là on rentre dans le vif de la planification, c'est de réserver son transport pour aller à sa première destination. Je te donne quelques tips là, ici, quelques astuces pour économiser, mais comme je te disais, je pense qu'il y a genre deux pages qui sont dans le guide pour économiser en voyage, qui sont dédiées seulement à économiser sur le transport, donc je te conseille vraiment d'aller le télécharger pour en avoir plein, mais déjà je te conseille d'utiliser un comparateur de vol pour trouver le vol au meilleur prix. Moi mes préférés c'est Google Flight et Skyscanner, mais il y en a d'autres. Et là aussi, comme je te disais, par exemple, pour la flexibilité des, de la destination, là, ça, c'est vraiment génial parce que si, par exemple, tu peux mettre les dates flexibles et destinations flexibles, ça, c'est le top parce que, voilà, tu vas vraiment voir ce qui est le plus économique. Mais si tu as que les dates et ou seulement la destination flexible, eh bien, tu peux aussi faire les recherches de cette façon. Donc, comme ça, pour vraiment trouver les vols les moins chers voilà, c'est économiser sur les vols. On aime bien ça. Ensuite, mon autre type le plus important, c'est de réserver directement sur le site de la compagnie aérienne parce que si tu as des problèmes avec ta réservation et tout, ça va être beaucoup plus rapide de les régler avec la compagnie aérienne que si tu passes par des sites tiers comme genre Kayak, eDreams et des trucs comme ça. Là encore, je suis sur plein de groupes de voyages sur Facebook et tout, et il y a toujours des gens qui ont de la difficulté à se faire rembourser, à modifier leur vol et tout quand ils passent par des compagnies tierces, alors que vraiment quand tu passes avec la compagnie aérienne, après il y a des compagnies aériennes qui sont vraiment mauvaises au niveau service à la clientèle, hein, mais en général c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de résoudre les problèmes, et voilà, et on aime bien quand c'est simple. Hein. Et finalement, vraiment important, vérifie bien dans les tarifs les bagages qui sont inclus ou pas, les conditions de modification, d'annulation du voyage si t'es pas sûr ou voilà, si tu veux juste être plus certaine ou certain. Et voilà, donc vraiment réserver le transport. Ça, bien sûr, c'était des trucs pour l'avion, hein, mais c'est hyper aussi recommandé de voyager en train ou en bus. Bien sûr, on va généralement un petit peu moins loin, mais réserver le transport aussi pour des autres moyens de transport, à l'étape 6. L'étape 7, étape hyper importante aussi, c'est de prendre une assurance de voyage. Et ça, c'est vraiment par contre l'étape que moi, je déteste. Alors, de toutes ces 12 étapes, c'est celle que je déteste le plus. Les autres, je les adore. Moi, j'adore planifier des voyages, j'adore faire tous les trucs administratifs, je kiffe. Mais prendre l'assurance de voyage, ça, je déteste. Mais bon, il faut la prendre parce que vraiment, on ne sait jamais ce qui peut arriver en voyage. Et ça peut vraiment être hyper cher à l'étranger de se faire soigner d'avoir des problèmes, des catastrophes naturelles ou des trucs comme ça, devoir être rapatrié d'urgence. Bref, il peut arriver de tout. Donc, c'est quand même bien d'avoir une assurance voyage. Moi, je ne suis pas une fan des assurances, mais c'est vrai que l'assurance voyage, ça, c'est un truc que je n'oublie jamais. Donc déjà, important, si tu as une carte de crédit et que tu aimes voyager, je te conseillerais de regarder pour des cartes de crédit de voyage qui te donnent des avantages, genre remboursement en cas d'annulation de voyage. Souvent, ils couvrent aussi la perte de bagages, retard de bagages, des trucs comme ça, des vols en voyage, etc. Par contre, généralement, c'est pour des voyages de moins de 90 jours. Là encore, il faut bien lire les politiques de ta carte de crédit et tout, mais ça peut être hyper avantageux. Si, par contre, tu n'as pas une carte de crédit qui a de tels avantages, vraiment assure-toi d'acheter ton assurance voyage moins de 24 à 48 heures après l'achat de ton vol d'avion. Là encore, bien sûr, il faut bien vérifier avec la compagnie d'assurance que tu souhaites utiliser. Du coup, ouais, j'aurais peut-être dû inverser un peu les étapes 6 et 7 maintenant que j'y pense. Mais disons que quand tu regardes pour tes vols, regarde aussi plus ou moins en même temps pour ton assurance de voyage pour bien t'assurer que en cas d'annulation, tu sois couverte. Parce que là, si tu prends ton assurance plus tard, ils pourraient ne pas te rembourser l'annulation de ton vol si tu as besoin de l'annuler pour quelque raison que ce soit. Ensuite, voilà, comme je te disais, moi j'aime pas beaucoup acheter des assurances voyage. Je suis pas une experte en assurance, je te donne juste mes astuces là, selon mon expérience à acheter des assurances de voyage plusieurs fois dans ma vie à date. Mais voilà, ça c'est vraiment des astuces, je suis pas une experte, hein, donc voilà, mes petites astuces pour t'aider à rendre ce processus moins pénible. Donc déjà, définis bien les caractéristiques nécessaires dont toi t'as besoin pour ta police d'assurance. Ça c'est par exemple selon ton âge, souvent pour les personnes âgées par exemple, certaines assurances ont des limites et des trucs comme ça, donc il faut bien s'assurer qu'elles te couvrent. Si tu as des conditions médicales préexistantes, là il faut vraiment faire hyper gaffe et bien te renseigner. Si tu es nomade digital ou expat et donc t'as pas une résidence fixe t'es pas couvert par un système de santé national quelque part, il y a des assurances exprès pour ça. Si tu comptes faire des activités sportives à risque durant ton voyage, par exemple de la rando, ben là moi par exemple pour le Népal, il faut genre comme je veux faire des randos à plus de 4000 mètres, il faut vraiment, je suis en train de regarder et tout et c'est hyper compliqué parce que la plupart couvrent ben jusqu'à 4000, il y en a jusqu'à seulement 3000, d'autres jusqu'à 5000, bref, il faut vraiment faire hyper gaffe si t'as l'intention de faire des activités sportives à risque, bien t'assurer qu'elles soient couvertes, donc ça... Je continue mon énumération des genres d'activités à risque. Il y a le surf aussi, l'alpinisme, la plongée. Donc vraiment, regarde, si tu comptes faire genre ou du bungee jumping ou des trucs comme ça, assure-toi bien que ce soit couvert par ton assurance. Aussi, si tu voyages hyper souvent durant l'année, par exemple, ou si c'est un voyage de plusieurs mois, ou si c'est un voyage juste de 2 semaines, par exemple, ben là encore, il y a différents types d'assurances, donc regarde bien celle qui convient le plus à ta situation. Aussi, assure-toi que tu puisses faire, si tu as oublié de prendre une assurance voyage, que tu puisses la faire durant, ben, une fois que tu es déjà parti en voyage, parce que pas toutes les compagnies d'assurance acceptent ça. Et bien sûr, si tu pars pour plusieurs mois, ben, assure-toi de pouvoir la renouveler une fois que tu es en voyage. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une compagnie d'assurance, je le savais avant de partir, hein, mais qui me permettait seulement de faire, je pense que c'était 1 an, et après, ça couvrait plus, quoi. Donc, et c'était impossible de la renouveler. Donc, ça aussi, à prendre en considération. Aussi, prends en considération la valeur de l'équipement que tu apportes avec toi. Par exemple, si tu as du matériel photo hyper coûteux, un ordinateur, un portable et tout, quelle est la franchise là, bref, je ne me rappelle jamais c'est quoi le terme exact, mais jusqu'à combien tu es dédommagé en cas de vol, par exemple, ou de perte, parce que, ben voilà, si tu n'as rien de valeur, ben 700 euros, ça peut être suffisant. Si tu as des trucs de valeur, ben là, tu peux peut-être vouloir avoir genre 2500 euros ou des trucs comme ça, quoi. Donc, à prendre en considération aussi. Donc voilà, une fois que tu as bien défini tes critères, recherche. Moi, je te conseillerais de rechercher genre entre 5 et 10 compagnies différentes. C'est vraiment chiant, je sais, mais ça va vraiment te permettre de voir quelle est la meilleure assurance pour toi. Et moi, je te conseille vraiment de faire un tableau comparatif pour pouvoir bien comparer les différentes assurances selon les différents critères que tu as. Hein. Donc, comme ça, voir laquelle est la meilleure visuellement. Moi, je suis une personne très visuelle, ça m'aide beaucoup. Si t'es pas visuelle, ben, peut-être que c'est pas nécessaire. Mais bon, moi, ça m'aide, donc je te donne le conseil. Voilà, une chose aussi, une fois que tu as bien fait tes recherches, tu as fait ton tableau comparatif, je te conseille une fois, à tête reposée par contre là, hein, pas directement parce que, en tout cas moi ça me donne un mal de tête rechercher les assurances, donc je me donne un petit temps de latence entre la recherche et ensuite une fois à tête reposée, je regarde et je vois quelle est l'assurance qui correspondrait le plus à mes critères et je lis bien le contrat. De celle-là. Donc, je le lis bien attentivement et tout à tête reposée pour m'assurer, ben voilà, hein, les petits caractères minuscules là des contrats d'assurance, ben je m'assure de bien les lire pour savoir si c'est vraiment la bonne assurance pour moi ou pas. Donc voilà pour l'étape la plus emmerdante de la préparation d'un voyage. Maintenant, étape 8, moi je te conseille de prendre rendez-vous pour les vaccins, si tu dois aller dans certaines destinations et tout, comme je te disais, dans une clinique de voyage international et aussi chez ton médecin de base. Et aussi, de prendre d'autres rendez-vous médicaux. Donc, je développe là pour les exemples. Donc, assure-toi de prendre si tu as des vaccins obligatoires à faire ou même très fortement recommandés, assure-toi de prendre rendez-vous au moins un mois avant ton départ, parce que plusieurs vaccins nécessitent plus qu'une dose, qui doivent être généralement à 1 semaine, mais des fois plus d'intervalle. Donc, le plus tôt tu peux prendre ton rendez-vous, le mieux c'est, honnêtement, pour t'assurer d'avoir tous les vaccins nécessaires. Ensuite, ça c'est surtout si tu pars plusieurs mois. Hein. Si tu pars 2 semaines, c'est pas nécessaire d'aller faire tout ça. Mais si tu pars plusieurs mois en voyage, moi je te conseille vraiment d'aller chez ton médecin de famille avant de partir pour faire un check-up général, pour par exemple faire des analyses de sang, d'urine, pour t'assurer que t'es en santé, que tout va bien et tout, et que t'as pas de problème avant de partir, quoi. Aller chez le dentiste, hein, faire peut-être un petit nettoyage, s'assurer là encore que tout va bien parce qu'il y a rien de pire, en tout cas il y a pire, mais devoir aller chez le dentiste à l'étranger, tu sais pas toujours comment sont les conditions et tout, voilà. Moi, je préfère éviter, donc je préfère y aller avant de partir, comme ça, je sais que pour un petit bout de temps, je suis correcte. Pour les femmes, aller chez les gynécos, ça peut être une bonne idée aussi pour s'assurer que tout va bien de ce côté-là. Si tu as des lunettes, l'optométrice aussi, ça peut être une bonne idée. Là, surtout, je répète, si tu pars plusieurs mois, par exemple, t'assurer que tes lunettes sont à jour et tout, que tu n'auras pas de problème là-dessus. Ensuite, voilà, et si tu as d'autres conditions médicales spécifiques, bien sûr, je t'encourage vivement à aller voir d'autres spécialistes pour t'assurer que tout va bien avant de partir. Avec l'étape 9, on rentre déjà dans la partie concrète là, de la planification. Et donc, c'est-à-dire de faire des recherches sur là où les destinations, les activités qu'on veut faire et commencer à planifier l'itinéraire. Donc, moi, ce que je fais généralement, moi, je te conseille déjà toujours d'avoir genre sur Google Maps, chaque fois que quelqu'un te conseille un endroit ou te parle un endroit et tout, de le sauvegarder. Donc déjà, ça te fait une liste de choses à faire quand tu veux aller dans une destination. Et donc voilà, moi je pars déjà toujours de là, je regarde un peu ce que j'ai sur mon Google Maps et tout, et si j'ai rien, on part de zéro, mais si j'ai des trucs, je regarde déjà et tout, donc ça c'est déjà cool. Sur internet et tout, fais des recherches sur les villes, les différentes villes, les activités à faire, les expériences aussi que tu aimerais faire. S'il y a des trucs, tu sais, par exemple, tu vas dans la mer Rouge et tu voudrais faire de la plongée, recherche déjà ça, des trucs comme ça. Donc j'ai pas vraiment de trucs à te donner parce que c'est Google quoi. Va sur Google, sur YouTube, sur Pinterest, sur Insta aussi, parce qu'Insta tu peux faire des recherches avec des mots-clés et tout, donc ça peut être hyper cool aussi pour découvrir des choses à faire. Un truc qui est vraiment hyper important et ce que je te disais à la première étape, ici je pense que c'est hyper important de garder en tête ton pourquoi, donc pourquoi toi tu veux voyager et tout, et aussi bien sûr ton budget. quand tu choisis ton itinéraire, les activités à faire, rappelle-toi vraiment que tu voyages pour toi et pas pour les autres, ou pas pour les réseaux sociaux, ou pas pour dire que t'as été là parce que il faut que t'ailles là quand tu vas dans tel pays. Vraiment, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit, fais ce que toi tu as envie de faire et choisis vraiment les activités que t'as envie de faire. Et souvent aussi, les activités, c'est ce qui plombe un budget voyage. Déjà, assure-toi de bien vraiment vouloir faire toutes les activités. Donc ici encore, pas faire une activité juste parce que il faut que tu ailles au Louvre quand tu vas à Paris. Moi, j'ai déjà été 3 fois à Paris, j'ai pas encore été au Louvre, par exemple. Bon, j'aimerais bien y aller, hein. Mais juste pour dire, c'est pas obligatoire. Il y a aucune obligation à faire quoi que ce soit. S'il y a un truc qui t'intéresse pas, tu le fais pas et il y a pas de souci. Diminuer le budget, regarde s'il y a des réductions. Par exemple, si t'es étudiante ou si t'es enseignant, des fois il y a des ou enseignante, il y a des réductions. Il y a des réductions pour tout. Donc informe-toi bien. Regarde aussi bien les journées gratuites parce que la plupart des endroits ont des journées gratuites ou des horaires gratuits dans les musées par exemple et tout pour essayer de diminuer le budget des activités. Donc planifie ça. Planifie tes activités aussi selon ça. Moi ce que je te conseille c'est de faire ta recherche et tout, et une fois que t'as plus ou moins identifié des choses qui t'intéresseraient et tout, de établir plus ou moins un itinéraire logique selon ce que tu voudrais faire. Moi personnellement, la façon dont je voyage et que j'aime faire, mais qui n'est absolument pas la seule ou la meilleure façon de faire, c'est de faire un itinéraire un peu vague, tu vois, genre avoir une vague idée des, par exemple, des villes que tu veux faire, etc. Mais de pas trop planifier. J'aime bien même ne rien planifier vraiment, ne réserver, d'ailleurs j'en parle juste après, mais vraiment d'aller with the flow, parce que quand t'es en voyage, tu rencontres des gens te parlent de choses que t'avais pas prévues ou que tu connaissais pas et tout. Et donc, moi je trouve que c'est la beauté du voyage, c'est vraiment d'avoir la flexibilité, la spontanéité, de dire oui sur le moment et de to go with the flow. Donc voilà, mais si tu préfères planifier ton itinéraire précis, eh bien fais-le. Maintenant que tu as déterminé les activités que tu veux faire, les villes que tu veux visiter, etc., eh bien planifie ton itinéraire, mais par contre, vraiment, si tu préfères avoir un itinéraire, vraiment, ne planifie pas genre toutes les minutes de ta journée. Laisse du temps pour pour la spontanéité, pour des choses que peut-être tu n'avais pas prévues et tout. Donc vraiment, ne planifie pas à la minute près parce que ce serait un peu dommage de rater des occasions parce que tu avais prévu trop de trucs ou aussi, il peut y avoir des imprévus, tu peux tomber malade, il peut y avoir le transport qui est en retard et tout. Donc il faut vraiment, le voyage c'est l'imprévu, c'est la spontanéité, donc il faut aussi laisser un peu de place, même si on préfère planifier et tout, laisser de la place pour des ajustements parce que c'est sûr qu'il va y avoir à en faire de toute façon. La 10e étape, donc, c'est de réserver tes hébergements. Donc selon le type de voyage que tu veux faire, moi, mon conseil, comme je disais, ma façon de voyager, c'est de ne réserver que la première ou les premières nuits dans la première ville où tu arriveras, parce que t'es sûr que tu vas arriver là. et ensuite, de réserver la dernière ou les deux, trois dernières nuits, là encore, parce qu'en théorie, tu sais d'où tu repartiras. Ça, c'est si tu as une date de retour. Sans date de retour, pas besoin de planifier ça. Mais si tu sais déjà d'où tu pars, où tu arrives, où tu pars, tu peux réserver les quelques premières nuits à l'arrivée et quelques premières nuits au départ. Comme ça, tu sais que tu es sûr d'être là-bas. Mais dans le milieu, moi, je te conseille de ne pas réserver et de voir un peu petit à petit où aller. Là, ça, c'est bien sûr en prenant en compte si tu as bien fait ta recherche, à l'étape, je ne me rappelle plus si c'était 4. par exemple, si c'est haute saison parce que c'est un festival où il y a un événement précis et tout, là, bien sûr, non, on réserve parce que sinon, tu vas te retrouver sans hébergement. Mais même en haute saison, des grandes villes et tout, tu trouveras toujours un endroit pour où rester. Par contre, les prix pourraient changer. Donc, généralement, tu peux wing it, tu peux y aller en réservant quelques jours d'avance et ça le fait sans problème. Par contre, un petit truc, si tu ne réserves pas rien en avance, je te conseille quand même de faire un peu de recherche en amont pour voir dans les zones ou les villes où tu penses aller, pour voir un peu c'est quoi les prix, s'il y a beaucoup de disponibilité ou pas, et justement ajuster tes plans en conséquence. Ensuite, pour les hébergements, en tant que réceptionniste dans une auberge de jeunesse, je te supplie de bien regarder quand tu réserves les services qui sont proposés par les hébergements et s'ils correspondent à tes besoins. Parce que vraiment, c'est ta responsabilité en tant que voyageur ou voyageuse de réserver et de voir les services qui sont offerts. Donc, si tu veux que les serviettes soient incluses, qu'il y ait le petit-déj, qu'il y ait des casiers dans la chambre, ou des casiers avant, après le check-in ou le check-out, qu'il y ait du Wi-Fi. Bon, là, ça, c'est généralement... Maintenant, il y en a presque partout, mais on sait jamais, Si tu veux une cuisine, si tu as besoin d'un endroit pour travailler, etc., assure-toi de bien regarder les caractéristiques des hébergements où tu penses réserver, parce que c'est ta responsabilité de réserver dans les endroits qui correspondent à tes critères. Après, ne viens pas dire à la réceptionniste que tu es déçue parce qu'il n'y a pas de cuisine, alors que c'était très bien écrit que tu n'avais pas de cuisine. Je dis ça, c'est une petite frustration parce que ça m'arrive tous les jours. Donc voilà, s'il te plaît, assure-toi de bien réserver les hébergements que tu veux et qui ont tout ce dont tu as besoin. Ensuite, dans le guide pour économiser en voyage, je te donne là aussi plus d'une quinzaine d'astuces pour économiser sur les hébergements. Mais le truc le plus important, c'est de réserver directement sur le site des hébergements quand c'est possible, quand ils en ont un, pour éviter de payer des commissions aux plateformes comme Hostelworld et Booking, qui peuvent résulter à... au final, c'est des fois l'équivalent d'une nuit supplémentaire juste en commission que tu payes pour rien. Donc voilà. Et ça permet aux héberges et tout de survivre sans les plateformes. Et étape numéro 11, donc l'avant-dernière, c'est de planifier ta packing list, donc ce que tu apporteras, et d'acheter ou te procurer les éléments nécessaires. Ça, c'est une autre de mes étapes préférées, mais j'adore faire les valises. j'y pense pendant des mois avant de partir en voyage, littéralement. Important de choisir des vêtements selon les températures prévues, les activités les activités que tu penses faire et les coutumes locales hyper importantes, genre si tu vas dans des pays, par exemple, musulmans, ou si tu vas visiter beaucoup de temples, d'églises, des trucs comme ça, eh bien, assure-toi d'apporter des vêtements qui sont, qui respectent les coutumes locales. Vérifie si tu as besoin de matériel spécifique selon les activités que tu désires faire et si tu dois l'apporter ou si tu peux le louer. Par exemple, si tu veux faire de la randonnée, etc., est-ce que tu peux louer une tente, un sac de couchage là-bas? Si tu veux faire du surf, est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu apportes ta propre planche qui vraiment c'est genre hyper pas confortable à apporter, à transporter et tout. Donc si tu peux la louer là-bas, est-ce que ça vaut peut-être plus la peine, etc. Donc vérifie bien ça. Ensuite, liste bien tout ce dont tu as besoin et qui te manque et achète-les ou emprunte-les, c'est encore mieux si tu peux les emprunter, pour ton budget et la planète, mais voilà. Et vraiment mon conseil, et là vraiment, écoute l'épisode précédent qui est justement sur comment ne pas porter trop de vêtements par exemple. N'importe pas trop de choses, là l'épisode 20 c'était justement sur comment ne pas emporter trop de vêtements. Et dans les prochains épisodes, je te ferai aussi d'autres épisodes sur comment réduire, par exemple, ton kit de toilette ou d'autres choses comme ça pour vraiment voyager le plus léger possible parce que tu verras, c'est beaucoup plus agréable. Et finalement, l'étape numéro 12, la plus importante, amuse-toi. Profite de ton voyage. Là, tu as déjà fait en amont tout ce qu'il fallait pour profiter de ton voyage pleinement et sereinement. Donc, détends-toi et profite. Vraiment, moi, je suis une fan de la préparation, de l'organisation avant mon voyage. Mais une fois que je suis en voyage, genre, l'organisation, genre, ça prend... comment on dit ça en français? Je n'ai pas l'expression, mais je pense que tu me comprends. Tu vois, genre, ça... Genre, j'en fais pas d'organisation quand je suis en voyage. Une fois que je suis dans le voyage, j'ai déjà tout préparé en amont. Donc là, je me laisse juste porter et je vois au jour le jour ce que j'ai envie de faire, selon les personnes que je rencontre, ce que les locaux ce qu'ils me conseillent, etc. Donc vraiment, n'hésite pas à être spontané et à prendre les occasions qui se présentent à toi. C'est vraiment ça, la beauté du voyage. Donc vraiment, moi c'est pour ça, je suis... Les gens, ils me demandent toujours, mais ouais, t'es super organisée et tout. Ouais, avant de partir en voyage. Une fois que je suis en voyage, non. Là, l'organisation, ça prend le bord, comme on dit au Québec. Je sais pas si vous dites ça dans le reste de la francophonie. Donc, voilà. D'ailleurs, on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé, genre sur Insta, comment trouver l'équilibre entre la planification et la spontanéité en voyage. Et donc, voilà. Moi, c'est vraiment ça pour moi. Je préfère être sûre d'avoir toutes les bases avant de partir en voyage, donc voilà, tu vois, de savoir que j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais en sachant que je vais pouvoir toujours acheter presque tout sur place, si besoin est. Mais voilà, j'ai la plupart des choses dont je vais avoir besoin, je les ai, je sais ce dont je vais avoir besoin. Je sais que niveau santé et tout, j'essaie de me protéger le plus possible. Après, on peut jamais prévenir, mais voilà, quand même, d'avoir fait cette préparation en amont. De savoir que je vais pouvoir rentrer au pays parce que j'ai toutes les documents nécessaires, ça c'est bien aussi, tu vois. Donc moi je fais vraiment beaucoup de planification en amont pour ensuite là sur place avoir déjà fait je me suis renseignée aussi sur les endroits où je veux aller plus ou moins, les coutumes du pays, donc voilà, je sais un peu déjà, je me suis un peu préparée, mais là une fois que je suis sur place, vraiment, c'est la spontanéité. Donc moi, c'est la façon dont je voyage. Comme je t'ai répété, c'est pas la meilleure façon, c'est pas la seule façon de voyager, mais ici c'est mon podcast, donc je te présente la façon dont je fais les choses moi. Après, je t'encourage vraiment à essayer toi-même, tester ce qui fonctionne ou pas, je pense que là j'ai essayé de te présenter les étapes essentielles pour préparer ton voyage et être sûr de pouvoir partir bien. Mais une fois que t'es sur place, vraiment lâche-toi et profite. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aidera à planifier tes prochains voyages. Si t'as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas. Et oublie pas de télécharger le guide pour économiser en voyage, parce que on veut tous, je pense, voyager plus. Et pour ça, c'est bien de savoir réduire ses dépenses, de dépenser intelligemment en voyage. Donc, tu trouveras le lien de ce guide en description de l'épisode. Et voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, je te laisse avec une petite citation. Cette semaine, c'est une citation anonyme qui dit « Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas ». Voilà, je te retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Et en attendant, je te souhaite de vivre plein de belles aventures. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures!